Midi 30, 13h, c'est le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
De constance, de continuité, c'est un peu une bouillie de rugby encore.
Bouillie de rugby, commentaire sans appel de notre consultant Éric Blanc alors que les rugbymen français décrochent leur place en quart de finale de la Coupe du Monde dans la douleur ce matin au Japon, victoire sur le fil 23-21 face aux îles Tonga. Deux enquêtes lancées sur les agents de la lutte antiterroriste, réponse du Premier ministre aux failles mises au jour après l'attaque de la préfecture. Édouard Philippe qui apporte son soutien à Christophe Castaner, soutien aussi ce matin de son ancien collègue Benjamin Griveaux sur Europe 1.
Il a parlé avec les éléments dont il dispose à ce moment-là.
Toujours dans le journal de la mi-journée, les opposants à l'extension de la PMA vont se compter dans les rues de Paris cet après-midi. Début de la manifestation à 13h aux abords du jardin du Luxembourg. Nous serons sur place. Le débat sur l'immigration demain à l'Assemblée nationale. Que faut-il en attendre? Le démographe Hervé Le Braz, spécialiste des migrations, est mon invité à 12h45. Enfin, la météo, pluie au programme sur la plupart des régions. C'est ce que nous dira Valérie Darmon.
Europe 1.
Et décidément, les rugbymen français sont passés maîtres dans l'art du suspense. Ils décrochent leur place en quart de finale de la Coupe du Monde au Japon. Mais comme lors de leur premier match face à l'Argentine, ils nous ont fait peur jusqu'au bout face aux îles Tonga, Simon Rubin.
Eh oui, 23-21 avec un essai tongien à une minute de la fin qui a effectivement fait très peur aux Bleus. Des Bleus qui ont finalement reproduit le schéma assez classique. Un bon début de match avec deux essais en l'occurrence pour Vakatawa et Raka. Et puis, tout se d'élite ensuite, deux essais encaissés en seconde période, des fautes, des ballons perdus, une trentaine au total. Très clairement, l'équipe de France ne maîtrise pas son sujet, ne maîtrise pas son rugby, et ça c'est inquiétant, le 15 de France qui a malgré tout signé un troisième succès consécutif en compétition, c'est plus vu depuis 4 ans. Un 15 de France qui est en plus qualifié, vous le disiez, pour les quarts de finale, et pourtant c'est l'inquiétude qui domine. Dans 6 jours, les Bleus joueront pour la première place du groupe contre l'Angleterre. Et puis en quart de finale, dans 2 semaines, ce sera l'Australie ou plus probablement le Pays de Galles.
Merci Simon Rubin et cette victoire dans la douleur. On va en reparler dans le journal des sports de Julien Froment dans une dizaine de minutes.
Europe 1 midi 32, Fabienne Lemoelle.
Un homme avec une vision radicale de l'islam en lien avec la mouvance salafiste qui avait changé d'habitude vestimentaire pour aller à la mosquée depuis quelques mois. Voilà comment le procureur du parquet antiterroriste a décrit hier Michael Harpon, détaillant aussi les 7 minutes où il a tué ses 4 collègues. Une description qui interroge, on le disait déjà hier, comment la dérive de cet informaticien habilité secret défense n'a pas pu être détectée. C'est pour cela qu'Édouard Philippe annonce ce matin dans le JDD qu'il lance 2 missions pour évaluer les agents de la lutte antiterroriste. En quoi vont consister ces 2 enquêtes, Guillaume Bier ?
Alors la première va concerner directement la direction du renseignement de la préfecture de police pour vérifier si les procédures de détection interne de la radicalisation étaient oui ou non mises en place, de quelle manière, etc. pour comprendre comment cet agent a pu passer au travers. Et là-dessus, Édouard Philippe veut les conclusions dans 1 mois. L'autre mission, plus longue, 3 mois, va concerner tous les services de renseignement pour s'assurer des mêmes points et de la manière dont ils signalent, traitent et suivent les agents au comportement suspect. Parce que c'est un phénomène qui est déjà pris en compte. On sait, d'après un récent rapport parlementaire, qu'il y a en France une trentaine de policiers et gendarmes potentiellement radicalisés, une trentaine sur 280 000 forces de l'ordre total. Ceux-là ont été détectés, signalés par leur hiérarchie et ils font l'objet normalement d'un suivi particulier, ce qui n'était pas du tout le cas du tueur de la préfecture de police. Juste d'un mot, qui va mener ces 2 missions? C'est l'inspection générale du renseignement qui dépend directement de Matignon. Ce n'est pas un service en tant que tel, ce sont des membres de différentes inspections qui sont mandatés pour contrôler les services de renseignement. Et c'est la première fois que leur travail sera évoqué publiquement, puisque habituellement, ils opèrent sous le sceau du secret défense.
Et Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1, donc pour ces 2 missions annoncées par Édouard Philippe ce matin dans le journal du dimanche. Le Premier ministre qui réaffirme aussi sa confiance à Christophe Castaner, dont une partie de l'opposition réclame la tête depuis qu'il a dit jeudi que l'assaillant n'avait jamais présenté le moindre signe d'alerte. Le ministre de l'Intérieur a fait état de ce qu'il savait quand il s'est exprimé. Voilà ce que dit Édouard Philippe. Même soutien apporté ce matin sur Europe 1 par son ancien collègue du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Il a parlé avec les éléments dont il disposait à ce moment-là. Je crois que, justement, quand on est en responsabilité, on se doit de répondre à tout. Si on fait le procès permanent de la parole, vous n'aurez désormais plus que le silence des politiques. Et donc, moi, j'appelle à un peu le sens des responsabilités, notamment dans ces moments-là. qu'il y ait une enquête parlementaire ne pose pas de difficulté. Il ne faut pas simplement qu'une enquête parlementaire devienne un tribunal politique. Et que dans ces circonstances et sur un sujet aussi sensible que celui-là, j'attends de la représentation nationale, à l'Assemblée comme au Sénat d'ailleurs, beaucoup d'unité. Alors, et le sens de l'intérêt général au-delà de la mauvaise polémique politicienne.
Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, aujourd'hui candidat de La République En Marche à Paris, il était l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. À suivre, les opposants à l'extension de la PMA à toutes les femmes vont se compter dans les rues de Paris cet après-midi. Ils se rassemblent dans une demi-heure près du Sénat à Paris derrière un slogan « Marchons enfants ». Nous serons sur place dans un instant.
Il est midi 37, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoine.
Alors que les députés ont voté l'extension de la PMA à toutes les femmes il y a 10 jours, les opposants à cette réforme ne désarment pas. Ils seront dans la rue à Paris cet après-midi. À leur tête, celle qui avait déjà été la porte-parole de la manif pour tous contre le mariage homosexuel, Ludivine de la Rochère. Elle était l'invitée de la matinale d'Europe 1 ce matin. Et pour elle, l'extension de la PMA, c'est un pas vers la GPA, la gestation pour autrui.
Écoutez, Édouard Philippe, il était opposé à la PMA sans père il y a 2 ans. Oui. Il a changé d'avis. Mmh. Aujourd'hui, il dit qu'il est opposé à la GPA. En fait, il ne fait rien pour lutter contre la gestation pour autrui. Et en effet, des Français vont exploiter des femmes à l'étranger. Et donc demain, Édouard Philippe, enfin demain ou après-demain, c'est pareil, Édouard Philippe nous dira que finalement, il a réfléchi, il a changé d'avis. Il est pour la GPA.
Ludivine de la Rochère avec Bernard Poirette ce matin sur Europe 1. Alors, combien seront-ils dans les rues de Paris cet après-midi? La mobilisation sera-t-elle aussi importante que lors de la Manif pour tous en 2013? On retrouve Justin Morin aux abords du Jardin du Luxembourg alors que le cortège Justin doit partir d'ici une demi-heure. Est-ce qu'il y a déjà du monde?
Bien écoutez, oui, la place se remplit petit à petit, mais c'est assez clairsemé pour le moment. Les manifestants arrivent des régions par petits groupes. Les organisateurs ont promis 110 bus venus de toute la France, 2 TGV en provenance du Sud. Sur les drapeaux, on lit le slogan « Liberté, égalité, paternité ». Et puis les manifestants ont aussi ressorti les drapeaux de la Manif pour tous, comme Annie, partie à 5h du matin de Marseille.
Je suis très contente d'être là pour dire non à quelque chose qui est complètement fou. C'est un monde à l'envers. On casse la famille qui est un papa et une maman et cette altérité, cette complémentarité nécessaire pour l'éducation d'un enfant. Il n'est jamais trop tard et je vais me lever le matin et me regarder dans la glace en n'ayant pas honte d'avoir accepté ces choses-là.
Cette Marseillaise doute que la mobilisation soit aussi forte que lors du combat contre le mariage pour tous. Mais il y a un danger, selon les manifestants, à ne rien faire, comme l'explique Dominique, pour qu'il n'est jamais trop tard.
Le combat, il n'est jamais fini. Quand les choses ne vont pas, il faut se battre. L'État n'a pas à s'immiscer dans la procréation. C'est ce qu'il fait avec cette loi. Donc on est en plein totalitaire, en plein régime totalitaire. Mais c'est que les prémices, on s'engouffre dedans et c'est absolument intolérable.
Alors les organisateurs n'ont pas avancé de chiffres concernant la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur s'attend à 200 000 manifestants. À 20 minutes du départ de la marche, de ce que l'on peut observer ici, on en est encore loin.
Justin Morin dans les rues de Paris pour Europe 1. Gros plan maintenant sur ceux qu'on appelle les aidants, ceux qui aident un proche malade, parfois au prix de beaucoup de sacrifices, pour les soulager dans cet accompagnement qui se fait, je le disais, au prix de nombreux sacrifices, tant argent. Ils vont pouvoir bénéficier l'an prochain d'un congé indemnisé pendant 3 mois. Une disposition qui s'impose quand on entend le témoignage de Stéphanie Jacquet. Elle est la maman de Pauline, une petite fille de 8 ans, hyperactive, qui souffre de troubles de l'attention, ce qui nécessite une présence quotidienne à ses côtés. Un investissement qui a conduit Stéphanie à arrêter de travailler.
Notre vie a basculé quand elle a eu 6 ans et quand on a eu un diagnostic officiel. Je me suis complètement sentie perdue puisque c'est vrai qu'après le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est accompagné nulle part. Comme c'est un trouble invisible, on doit sensibiliser, informer les enseignants, proposer nous-mêmes les aménagements scolaires, se battre sans arrêt tous les jours pour tout, pour que en fait la différence de notre enfant soit compensée. Notre rôle, c'est d'être maman, c'est pas de faire tout ça.
Un témoignage de cette maman aidante qui s'occupe de sa petite fille Pauline, 8 ans. Un témoignage recueilli par Marion Gauthier.
Le journal des sports.
Avec Julien Froment. Bonjour Froment.
Bonjour.
Hop, Julien, pardon. Mille
excuses. Ça arrive, ça arrive.
Voilà, l'émotion de cette victoire sur le field du 15 de France face au Tonga ce matin.
Oui, victoire étriquée, 23-21, mais qualification tout de même pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais les Français ont souffert, 3 essais encaissés, 14 fautes de main. Pour notre consultant Eric Blanc, c'est un bilan guère recommandable.
C'est des crêpes Suzette avec l'équipe de France, un coup à l'endroit, un coup à l'envers.
ça manque de constance, de continuité. C'est un peu une bouillie de rugby encore, hein, parce qu'après le match contre les États-Unis, on n'a pas maîtrisé du tout, je dirais, notre jeu avec beaucoup d'approximations, de fautes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette équipe de France n'arrive pas à exprimer un potentiel que l'on sent. Cette Coupe du Monde arrive peut-être trop tôt pour cette jeune équipe.
Voilà, Eric Blanc, pas très rassuré.
Hein, qui a le sens de la formule.
Voilà,
quand même,
qui répondait à Simon Rubin. Le programme des Bleus, samedi prochain, ça sera France-Angleterre pour viser peut-être la première place. Puis dans 15 jours, le quart de finale, soit face à l'Australie, soit contre le Pays de Galles. Et puis à noter le nouveau carton de la Nouvelle-Zélande en victoire, 71-9 contre la Namibie.
On passe au football, 8e journée de Ligue 1, Paris en mode patron, Nantes en invité surprise.
Oui, il y avait le choc hier entre le leader parisien et son futur ex-dauphin, l'Angesco. Bien, le choc a tourné court, 4-0 pour Paris qui conforte sa première place au classement. Et donc, avec 2 points d'avance sur le FC Nantes, nouveau dauphin, les Canaries ont battu Nice 1-0. Et Reverdy, eh bien, avec l'arrivée du nouvel entraîneur Christian Gourcuff, malgré les très bons résultats, on ne s'enflamme pas côté nantais, le défenseur Denis Appia.
Les deuxièmes, il faut en profiter. Si les autres ne veulent pas prendre 2 points, nous, on va les prendre. Et si on nous avait dit qu'on aurait autant de points en début de saison, on aurait essayé de suite, c'est vrai. C'était inattendu, mais après, je ne pense pas que ce soit volé. On a travaillé pour, mais ça reste éphémère. Et chaque match, il va falloir montrer ce qu'on sait faire pour pouvoir, si on a envie de rester là, pour pouvoir rester là.
Denis Appia avec Loïc Folio.
Et suite aujourd'hui de la 8e journée avec 3 rencontres, Lille face à Nîmes, Rennes contre Reims et puis le derby. Le choc ce soir à 21h entre Saint-Etienne et Lyon. Match bien sûr à suivre sur Europe 1 avec le tout nouvel entraîneur
Claude
Saint-Etienne, Claude Puel. Oui, ancien de Lyon, on se promet. Et puis Julien, coup dur pour l'équipe de France. Le gardien Hugo Lloris, c'est forfait pour les 2 matchs éliminatoires de l'Euro 2020 contre l'Islande et la Turquie.
Oui, les images terribles d'hier. Alors il souffre d'une luxation au coup de gauche. Sa blessure est survenue avec son club de Tottenham. Mais rien de cassé pour Hugo Lloris qui manquera entre 1,5 mois et 3 mois pour pallier ce forfait. Eh bien, Didier Deschamps a rappelé le gardien de Lille, Mike Maignan.
On termine avec les championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar et décidément le calvaire continue pour l'équipe de France.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hier, finale du 4x100 mètres, entrée en lice de Christophe Lemaitre qui n'a pas fait les courses en individuel. Eh bien, il n'aura même pas le temps de fouler le tartan qatarien puisque ses partenaires ont fait tomber le bâton dès le premier relais. Frustrant pour le sprinter français.
C'est un peu le jeu quand tu fais que le relais. Hein. Tu sais, ça arrive à beaucoup d'athlètes. C'est la vie d'un relayeur. Quoi. Quand on n'est plus relayeur, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est sûr que c'est très frustrant. C'est frustrant de ne pas courir, mais bon, c'est le jeu malheureusement. Donc c'est dommage parce que là, je pense que toute l'équipe était hyper bien. J'ai vu à l'échauffement, on était super bien. On était prêts pour ces championnats et pas le montrer et pas pouvoir courir, c'est vraiment dommage.
Voilà, Christophe Lemaitre avec Corinne Boulot aujourd'hui. Un dernier espoir de médaille avec le 4x400 mètres messieurs. Pour rappel, hein, les tricolores n'ont glané que 3 petites médailles. Une en bronze et une en argent. Enfin, dernier mot de sport mécanique, la MotoGP. L'Espagnol Marc Marquez, indétrônable. Il a validé son 6e titre de champion du monde dans la catégorie reine après sa victoire au Grand Prix de Thaïlande, au nez et à la barbe du jeune Français Fabio Quartararo.
Merci beaucoup Julien Froment. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et c'est toujours de la pluie au programme, Valérie Darmon.
Et oui Fabienne, et ce matin, vous étiez sous la pluie parfois battante des régions allant du Pas-de-Calais au Pays de la Loire jusqu'au Nord Aquitaine. Eh bien actuellement, ces pluies touchent le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre, le Val-de-Loire. Et en fin d'après-midi, elle touchera les régions allant des Pyrénées au Massif Central, Auvergne et Rhône-Alpes. Et pendant ce temps-là, sur les côtes de la Manche, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, vous retrouverez quelques éclaircies. Les maximales, 12 à 15 degrés sur l'Est de la France, 15 à 18 sur l'Ouest, 19 à 22 sur la moitié Sud, avec des pointes jusqu'à 25 le long de la Méditerranée, au soleil voilé. Demain, journée de transition, vous retrouvez le soleil sur les 2/3 sud, quelques éclaircies et surtout un temps sec sur la partie nord.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, c'est demain qu'a lieu le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Débat sans vote voulu par Emmanuel Macron. Que faut-il en attendre? Pourquoi assiste-t-on à une hausse des demandes de droit d'asile? Faut-il oser l'immigration économique comme le plaident certains parlementaires de La République En Marche? Autant de questions que je pose dans un instant au démographe Hervé Lebras, spécialiste des migrations. Il est mon invité.
Europe 1.
Europe 1. Vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1, il est midi 49, l'heure d'accueillir votre invité Fabienne Lemoyle.
C'est donc demain qu'aura lieu à l'Assemblée nationale le débat sur l'immigration, un débat sans vote voulu par Emmanuel Macron. Il a dit il y a quelques semaines aux parlementaires de La République En Marche qu'il fallait regarder les choses en face. Un débat qui se prolongera ensuite au Sénat mercredi. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Vous êtes démographe, grand spécialiste des migrations, historien à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel débat et surtout, est-ce que pour vous, il s'imposait aujourd'hui dans le débat public ?
À vrai dire, j'attends pas énormément de choses parce que je pense que c'est surtout une posture politique, dans la mesure d'ailleurs où les dernières enquêtes, notamment Ipsos, montrent que maintenant l'immigration n'est plus la question qui préoccupe le plus les Français. En tête, maintenant, on a l'environnement. En second, on a le pouvoir d'achat. Donc, je me demande quelle est la raison profonde de rentrer à nouveau dans ce débat.
Alors, le président Macron disait lui-même devant le Conseil de l'Europe, pas plus tard que cette semaine, qu'il fallait en parler pour ne pas laisser les grandes peurs prospérer.
C'est certain que les peurs prospèrent. Savoir si ne pas en parler les fait prospérer ou les empêche de prospérer, je suis quand même dans l'hésitation.
Le président Macron veut un débat apaisé, si je vous entends bien, sur cette question de la politique migratoire. Ça ne va pas être facile.
Ce serait la première fois, à mon avis, étant donné la composition de l'Assemblée nationale et même, je dirais, étant donné ce qui se passe au sein même de sa majorité.
Alors, toujours devant le Conseil de l'Europe, le point sur lequel le président Macron a mis l'accent, c'est sur le droit d'asile, en disant qu'il y avait un risque de détournement de ce droit d'asile et en prenant l'exemple d'une forte augmentation des demandes de demandeurs albanais et géorgiens qui sont désormais deuxième et troisième en position des demandeurs d'asile.
Sur ce point-là, il a raison, il y a un véritable problème puisque jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, c'était un peu plus de 60 000 demandes de droit d'asile par an, c'est monté à 80 et puis maintenant, l'année dernière, c'est 110 000 nouvelles demande d'asile. Et effectivement, beaucoup viennent de pays, sans employer le terme pays sûr, mais de pays où les problèmes ne sont pas énormes. Vous avez cité la Géorgie. Quelques années avant, c'était le Kosovo. On sent bien que ce n'est pas simplement des questions de persécution politique pour lesquelles le droit d'asile est fait. Même les Afghans, qui sont la première demande de droit d'asile, c'est en fait pour une grande partie des Afghans dont le droit d'asile a été refusé en Allemagne.
Alors, on l'a dit, Hervé Lebras, ce débat sur l'immigration, c'est clairement Emmanuel Macron qui l'a voulu. Il aura donc lieu lundi devant le Parlement. Je vous propose de réécouter Emmanuel Macron qui livrait en exclusivité pour Europe 1 à Jean-Rémy Baudeau la philosophie qu'il sous-tend ce débat pour lui sur l'immigration. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre dernier.
Je pense que ce serait une erreur de dire que la question migratoire est une question taboue ou que, en quelque sorte, on ne pourrait la poser que quand il y a des crises. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on serait aujourd'hui débordé par ce phénomène-là. On a eu les grandes migrations liées à la crise syrienne en 2015. On a aujourd'hui de plus en plus de migrations qui viennent d'Afrique. Et donc, face à cela, nous devons nous organiser parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien.
Le président Macron qui dit « la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien », Hervé Lebras.
Oui, il s'inscrit dans les pas de Michel Rocard qui avait parlé de « ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Simplement, dans ce qu'il dit, je trouve qu'il y a une erreur assez importante, c'est d'assimiler la question des migrations à la question de l'asile. Or, même si on a eu un chiffre très important par rapport au passé de demandes d'asile avec 110 000 demandes l'année dernière, les migrations régulières, celles qui donnent lieu à des cartes de séjour, c'est 260 000 l'année dernière. Donc le vrai phénomène migratoire, qui est un phénomène lié d'ailleurs à l'économie, c'est les demandes régulières. Il y a eu une espèce de crispation, sous prétexte bien sûr que les chiffres avaient augmenté, sur l'asile. Et l'asile a fini par représenter toute l'immigration. C'est une partie et une petite partie.
Vous dites parler de ruée migratoire est un grand fantasme.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le mot ruée a été employé par un journaliste anglais, Stephen Smith, dans le titre d'un livre, parce que sous prétexte que le continent africain, dans des prévisions des Nations Unies, allait connaître 1 milliard de plus d'habitants en 2050 que maintenant, il a pronostiqué que ce milliard allait assez largement se précipiter vers l'Europe. Mais ce n'est pas du tout le cas. Dans les migrations africaines, c'est des migrations entre pays d'Afrique. Et puis, il faut savoir autre chose, c'est triste d'une certaine manière, mais c'est que les gens pauvres, et les Africains sont très largement pauvres, Et les gens pauvres ne migrent pas loin. Les Somaliens n'arrivent pas en France. Les Somaliens, ils arrivent au Kenya, où il y a un camp de 500 000 Somaliens. Les habitants du Darfour, et c'est une situation très dure, eh bien, ils sont entassés à l'est du Tchad, à 50 km de leur pays, dans des camps, là aussi, où ils sont près de 500 000. Donc, cette crainte-là est une crainte ridicule, mais c'est le chiffre de 1 milliard qui fait monter cette crainte.
Hervé Lebras, je rappelle, démographe et grand spécialiste des migrations. Le président Macron a mis l'accent dans son discours du Conseil de l'Europe sur le droit d'asile, mais dans une tribune dans le journal Le Monde, vendredi, plusieurs parlementaires de La République En Marche, eux, écrivent « L'immigration économique doit aussi être prise en compte. En gros, il ne faut pas opposer les chômeurs français aux migrants. Ce serait omettre qu'il existe en France des secteurs aux besoins de main-d'œuvre non satisfaits et qu'il faut une stratégie en la matière. » Est-ce que c'est ça qui doit guider aujourd'hui notre politique migratoire ?
Non, ça ne doit pas le guider, mais ça doit être pris en compte. D'ailleurs, toutes les personnes qui, hélas, fréquentent les hôpitaux se rendent bien compte que le personnel médical, y compris les médecins maintenant, est très souvent d'origine étrangère. Il y a des secteurs où on manque de main-d'œuvre. Et d'autre part, cette main-d'œuvre qui souvent vient de l'étranger est maintenant une main-d'œuvre formée. Dans les chiffres du ministère de l'Intérieur et dans les chiffres de l'INSEE, à peu près 60% des nouveaux arrivants ont le bac ou un niveau supérieur au bac. Il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants dans les 40% qui restent, qui sont sans diplôme. Mais il ne faut pas oublier que c'est maintenant une immigration de diplômés en grande partie. Alors le risque, il est de soulever un autre fantasme qui a déjà été soulevé d'ailleurs sous Sarkozy, qui est celui des quotas. De croire qu'on peut donner des chiffres par métier, par région, c'est impossible. Tous les pays qui ont fait cette expérience savent que ce n'est pas possible, y compris le Canada, qui est quand même un pays où c'est quand même plus facile de réguler l'immigration parce qu'on n'arrive pas en bateau au Canada.
Une dernière question, Hervé Lebras. Quand vous voyez des formules comme le grand remplacement qui se diffuse dans le débat public, votre réaction ?
Le grand remplacement, c'est une formule qui a, je dirais, un caractère de type raciste. C'est l'idée qu'une population différente remplace la population française. Or, ce n'est pas ça qui se passe actuellement. On est en face d'une population qui est plus mélangée qu'elle ne l'était il y a environ un siècle. Mais il n'y a là-dedans pas du tout de remplacement. Dans toute l'histoire de l'humanité, la mixité a permis aux populations de se développer, de résister d'abord à des maladies, ensuite à des idées fausses.
Merci beaucoup Hervé Lebras d'avoir été avec nous ce midi pour nous éclairer sur ce débat qui aura lieu donc demain à l'Assemblée nationale. Et je rappelle qu'on peut prolonger cette réflexion et même sur d'autres thèmes dans un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, « Se sentir mal dans une France qui va bien » aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Fabienne.
Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge la tranche d'information avec les carnets du monde. Avec vous, Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, vous nous emmenez où aujourd'hui ?
Bonjour Fabienne. Eh bien, on va à la fois en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et en Roumanie. Le point commun de ces pays européens, c'est qu'ils accueillent beaucoup d'étudiants français rebutés par des filières très sélectives comme médecine en France. Alors on va entendre comment ces jeunes contournent l'obstacle en partant et parfois les problèmes que ça pose à l'étranger.
Eh bien, à tout de suite Sophie.
Et avant la grande vadrouille du dimanche, Fabienne, on revient avec vous sur les principaux titres de l'info de ce dimanche. À tout de suite sur Europe 1 et bonne journée à tous.